Chapitre 9. Vaillant jeune homme, te voilà étendu sans vie, saisi par la nuit du tombeau sur le seuil de la chambre nuptiale. Faites retenir un gémissement sans fin près de celui qui est dans le silence éternel. Schiller. Je m'étais lié intimement à Heidelberg avec un jeune homme qui suivait comme moi les cours de l'université. Les mêmes goûts nous avaient réunis. Un même culte aux idées grandes et libres avait cimenté cette union qui gagnait chaque jour en 12 épanchements. Victor Bréqueville avait beaucoup souffert, et quoique jeune, il avait touché du doigt bien des plaies sociales. Fils d'un tribun épargné par la hache populaire de 1792, il avait hérité de son père une tête de feu. Un cœur entièrement dévoué aux principes républicains, un nom oublié de l'Empire, mais auquel la Restauration avait donné un nouveau lustre, en le mettant au pilori de l'opinion aristocratique. Fier de la gloire, un peu sauvage de son père, Victor avait quitté la France pour chercher en Allemagne des amis et des rêveurs. Un jour, je reçus une lettre de Ludwig. Elle m'annonçait son prochain mariage. « Frère, me disait-il, nous avons perdu une sœur. Une autre sœur nous est rendue. Viens être heureux avec nous. » Pauvre frère, j'avais une bien grande place dans son affection. Le lendemain, Victor et moi, nous quittions la vieille université de Heidelberg. Notre voyage fut rapide, car le jour suivant, à midi, nous entrions à Cologne. Ludwig était sorti dans la matinée avec Franz. Personne ne put me dire à quelle heure il serait de retour. Je recommandai au domestique de faire mon arrivée au comte. Je voulais lui faire une surprise. À peine étais-je installé à l'hôtel que j'entendis sous mes fenêtres un grand bruit de roues, et la voiture de Ludwig entra précipitamment. Je m'élançai à sa rencontre. J'ouvris la portière, heureux, et le sourire sur les lèvres. Je restai un instant cramponné au fer de la voiture, la bouche ouverte, sans trouver un cri. Il y avait là devant moi deux hommes, l'un étendu sur une banquette, le corps affaissé, les bras pendants, les yeux ternes et la poitrine inondée d'un sang noir. L'autre, immobile, la face bouleversée, les yeux hagards. Je portai ma main à mon front. Les idées se brisaient dans ma tête. Un frisson glacial courait lentement sur mes membres. Je n'osais croire. C'était affreux. Affreux comme un rêve satanique. Et pourtant c'était vrai. Je pris dans mes bras le corps de Ludwig et je le portai à travers les domestiques consternés. Je le déposai sur ce même lit où quelques années auparavant le noble comte avait tendu la main au pauvre bohémien. Je me penchai sur lui pour trouver dans sa poitrine une dernière étincelle de vie. Rien. Il était mort. En me relevant, je vis Franz debout de l'autre côté du cadavre. « Qui a tué mon frère ? » lui criai-je. Il me regarda froidement sans répondre. « Qui a tué mon frère ? Qui a tué mon frère ? Entends-tu, vieillard ? Je te demande qui a tué mon frère ?» Et je posai la main de Franz sur la poitrine sanglante de Ludwig. Au contact de cette chair froide, le docteur revint subitement à lui. « Oh, Ludwig ! » murmura-t-il d'une voix étouffée. « Pauvre Ludwig, mort, mort, malheur au baron Yann de Pirmesens, oh malheur !» Puis il tomba sur un fauteuil en cachant dans ses mains sa figure inondée de larmes. En ce moment, j'entendis derrière moi une respiration haletante. Je me retournai et je vis Bréqueville qui me tendait silencieusement la main. Je me jetai dans ses bras et cachai mes larmes dans cette étreinte. « Ami, dit-il en indiquant le cadavre, l'ombre de Ludwig réclame de sanglantes funérailles. » Nous nous pressâmes la main, muets, mais pleins tous deux de la même pensée, et nous sortîmes en jetant sur le comte un dernier regard. Le même jour, j'avais atteint la moitié de ma vengeance. Le baron Yann de Pirmesens fuyait, mais son témoin, Matoël, étendu sur les bords du Rhin, se tordait dans les convulsions de l'agonie. Avant de restituer à l'enfer son âme maudite, le misérable avoua qu'il n'avait chargé que de poudre l'arme de mon frère et que cette infâme trahison était convenue entre le baron et lui pour éluder les chances du combat. Je fis rendre les derniers honneurs au comte Ludwig de Rommelstein et debout sur sa tombe, je jurai de le venger. Le soir même, j'embrassai Victor et je partis. Pendant une année, je parcourus l'Europe, cherchant partout le baron Yann. Nul ne l'avait vu. Ceux même qui le connaissaient intimement ignoraient le lieu de sa retraite. Enfin, las de ce pèlerinage de mort, blessé au plus profond de l'âme, aigri par la haine et fatigué de mon isolement, je résolus de retourner en Allemagne et d'y attendre une vengeance qui semblait me fuir. Je m'arrêtai quelques jours à Liège. Cette ville convenait à ma tristesse. Ses vieilles églises, ses rues étroites, les hautes montagnes qui l'entourent, la franchise cordiale de ses habitants, tout me parlait d'une voix amie, tout semblait me connaître et me plaindre. Un soir, je gravissais avec peine la montagne Saint-Gilles, lorsqu'un homme me saisit brusquement la main. Je levai la tête et je tombai dans les bras de Victor. Cette année ne l'avait point vieilli. Nous nous assîmes sur l'herbe, à moitié de la côte. J'étais heureux et triste de rencontrer le seul ami que j'eusse au monde. Bricqueville me parla longtemps de ses projets d'avenir. Il n'avait perdu aucune de ses illusions. C'était toujours même confiance, même dévouement aux idées généreuses. Il me développa les sublimes utopies du grand et malheureux Fourier. Il remua les cendres de mon cœur pour y ranimer quelques étincelles. Puis, me voyant sourire, il s'arrêta tout à coup. « Ami, dit-il, tu souffres. N'oses-tu donc me confier la moitié de tes peines ?» Je lui serrai la main. « Oui, continua-t-il, tu souffres. Je le vois à ton front pâle, à ton regard profond, à ta parole amère. Tu souffres seul. Tu aimes ta souffrance égoïste. Tu voudrais en mourir peut-être. Tu voudrais reposer ta tête fatiguée sur la dalle d'une tombe. Tu voudrais dormir, et tu n'as pas vécu. Oh, Karl, tu as donc bien peur de la vie. »
Ami, je ne crains que le vide immense de mon âme.
Ingrat, dit-il avec un sourire affectueux, qui donc t'a fait douter de l'amitié? Il se tut un instant, puis il ajouta. Écoute, la grandeur va sonner. L'aurore des peuples libres brille à l'horizon. Elle jette ses premières lueurs sur les ruines de ce vieux monde qui croule. Les glaives sont tirés. Veux-tu être des nôtres?
Frère, lui répondis-je. Prends mon bras pour défendre ta cause, mais laisse mon cœur.
Il me le faut pour haïr. Nous redescendîmes ensemble les trois sentiers qui se tordent sur les flancs rapides de la montagne. Dès lors, j'essayais de m'étourdir. Je repris avec entrain la vie bruyante de l'étudiant. Je me refis à cette atmosphère de canettes et de cigares. Je me déchargeai pour quelques jours du fardeau de ma haine, et je voulus reléguer dans l'oubli mes souvenirs les plus pénibles et les plus chers. Je me mêlai enfin à cette jeunesse pétulante qui suivait les cours de l'université liégeoise. L'épreuve me sourit. Recommandée par Bricqueville, je fus partout reçu comme un fidèle. Toutes les mains s'ouvrirent pour serrer les miennes, les plus intimes secrets me furent dévoilés. Pendant un mois, je crus à la possibilité d'une nouvelle existence, mais je ne tardai point à m'apercevoir de tout ce qu'il y a de ridicule et de vide dans cet état permanent de conspiration, dans ces inoffensifs plaidoyers en faveur des souffrants et des affamés, dans ces interminables discussions politiques soulevées entre une pipe de tabac et un pot de bière, dans cette surabondance de paroles et dans cette stérilité d'actes. Je compris avec douleur que parmi tous ces jeunes enthousiastes, bien peu avaient la conscience des idées dont ils se faisaient les porte-voix. Je devinais enfin ce jeu de marionnettes, dont les principaux fils aboutissaient entre les mains de la police. Il me fallut hausser les épaules. J'avais cru entrer dans une vaste conspiration, et je m'éveillais au milieu des vapeurs d'une tabagie. Ce fut une amère déception. Cette goutte de fiel raviva toutes les plaies de mon âme. Le passé me parut plus formidable encore, maintenant qu'il se trouvait jeté comme un abîme entre toute illusion et moi. Ma résolution fut prompte, décisive. J'écrivis une lettre à Bricqueville, le priant comme dernier service de me faire creuser une tombe à côté de celle de Teresa. Je cherchais dans mon cœur le souvenir de tous ceux que j'avais aimés. Je leur rappelai mes souffrances. Je relus une à une les lettres de Ludwig, la dernière surtout, dans laquelle il me parlait avec enthousiasme de son avenir. Puis, je mis dans une coupe quelques grains d'un poison violent et j'ouvris mes fenêtres pour voir le ciel. La soirée était superbe. Le soleil s'inclinait majestueusement derrière les Ardennes. Ses derniers rayons éclairaient de pâles lueurs la façade des édifices. Quelques nuages vaporeux fuyaient à l'horizon et la nature s'assoupissait au bruit de mille harmonies crépusculaires. Il y avait dans ce tableau un tel parfum de tristesse et de mélancolie
que je me sentis entraîné à en jouir quelques minutes encore. Je descendis dans ma nacelle et, ouvrant la voile au souffle moelleux de l'air, je m'assis à l'avant pour rêver. De légères teintes de pourpre coloraient alors la crête des monts, mais les ombres de la nuit s'étendaient sur la plaine. La lune, cette mystérieuse compagne du silence, brisait ses rayons de cristal à la surface du fleuve. Les bruits mouraient un à un, comme les derniers soupirs d'une orgue qui se tait. Parfois le vent promenait sur les vagues quelques lambeaux d'une chanson lointaine, quelques bourdonnements d'insectes dans les hautes herbes du rivage, ou bien encore le gazouillement craintif d'un petit oiseau. Le doigt de Dieu se posait sur la nature, et le sommeil déployait dans l'espace ses ailes fantastiques. Je me découvris pour prier. Tout à coup, les paroles d'un chant de douleur, mariées aux vibrations plaintives d'une harpe, passèrent comme un souffle à la cime des vagues. Cette voix d'une pureté idéale, s'élevant au milieu du silence, semblait prendre possession de son empire. La brise du soir suspendit son haleine, la nacelle se tint immobile, les flots cessèrent de murmurer. Jamais impression plus suave ne descendit au fond de mon âme. Il y avait dans cette poésie des révélations si profondes, des accords si étranges, une résignation si vraie que je sentis deux larmes rouler de mes paupières jusqu'alors stériles. Le chant cessa, et je levai la tête. Sur la rive du fleuve, au milieu des grands arbres, était debout une femme vêtue de blanc. Ses mains, encore étendues sur les cordes frémissantes de la harpe, avaient cessé d'en tirer des accords. Elle semblait perdue dans une immense rêverie. Vous dire que cette femme était belle, que ses grands cheveux noirs livrés à la brise retombaient sur ses épaules blanches comme l'albâtre, vous dire qu'elle ressemblait à l'une des sublimes créations de Murillo, ce peintre espagnol à la touche sombre et fière, ou mieux encore à l'ange des douleurs pleurant les amères déceptions de la vie, ce ne serait pas vous donner l'idée de l'enthousiasme de l'amour sans borne qui s'empara subitement de mon être. La nacelle touchait au bord. Je me levai pour fléchir le genou devant cette divine apparition. « Oh ! » lui dis-je. « Anjou femme, qui donc t'a initié aux paroles de la grande souffrance ?» Ici je m'arrête. De toute cette scène, il ne m'est resté que le souvenir confus d'une joie indicible, d'un bonheur tel que mes rêves n'en avaient jamais offert à mon imagination délirante. Le regard de cette femme se reflétait dans mon regard. Son haleine glissait sur mon front comme le souffle tiède de la nuit sur la plante étiolée par un soleil brûlant. Parfois aussi je sentais voltiger sur ma figure les boucles légères de ses noirs cheveux. Maria m'aimait. Oh, quel poète, quelle imagination aux élans sublimes pourrait définir ces deux mots. Elle m'aimait. Quelle langue humaine pourrait traduire cette fièvre, ces aspirations vers le beau, vers l'infini. Quelle âme de feu pourrait jeter dans un moule de bronze ou de plâtre ce métal incandescent qu'on appelle amour. Maria m'aimait. Ce fut un mois de bonheur, un mois d'amour, un mois rempli comme une existence d'un siècle. Regret, douleur, désespoir, et ma vie entière et ma double vengeance, tout fut oublié. La mort de Teresa, l'assassinat de Ludwig n'étaient plus pour moi qu'un rêve pénible dont je repoussais la mémoire, comme importune à mon bonheur. Je voulais vivre maintenant, je n'avais plus la force de haïr. Égoïste, lâche comme un parvenu, je ne savais plus qu'être heureux, mais le ciel est juste. Un soir, je m'éveillai au bruit d'une orgie. Il y avait à mes pieds un cadavre. Ce cadavre était celui de mon meilleur ami. À côté de ce cadavre, il y avait une femme agenouillée et priant sous l'éclair d'un poignard. Cette femme était ma sœur.